Alors, bonjour.
Donc moi je m'appelle Marc Gassossé. Je suis médecin. Je suis spécialiste en médecine interne. J'ai exercé pendant une bonne partie de ma vie dans un hôpital périphérique où j'étais chef de service. Et puis j'exerce maintenant comme praticien hospitalier dans un hôpital parisien. Je suis par ailleurs un ancien GPUcien. J'étais au GPU. Collègues qui vont en parler peut-être un petit peu. Voilà, il y a un certain nombre d'années et vous aurez la gentillesse de ne pas me demander exactement combien ça fait. Mais voilà, et se garde quand même beaucoup de moments où on a partagé ensemble dans cette fac et où, entre autres, on lisait Paul Tournier. Voilà, je suis donc bien entendu chrétien, je crois qu'il fréquente une église. C'est pas toujours facile d'être un médecin. Je suis médecin donc hospitalier, donc je suis un pur hospitalier, hein, c'est un des biais de mon topo. Donc hospitalier, ça veut dire qu'on travaille dans un hôpital, c'est pas toujours facile. Les conditions de travail dans un hôpital, c'est important d'avoir le regard du malade et le regard du soignant existe aussi sur des conditions qui sont particulièrement complexes et de plus en plus complexes. Mais aussi il y a des éléments très intéressants, entre autres c'est un travail d'équipe et on partage, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec d'autres médecins, on travaille avec des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des psychologues, et c'est un travail de vraiment d'équipe, et cette chance de pouvoir partager est quand même un élément très 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 positif de ce métier. Bon, je n'ai pas de PowerPoint parce que je ne suis pas très à l'aise avec certains outils modernes, mais voilà, n'hésitez pas surtout, dans ce que je peux dire, c'est plus une forme de témoignage de quelque chose, et je peux dire des choses qui vous paraissent incompréhensibles parce que parfois on parle d'un jargon, des choses qui vous paraissent fausses ou qui vous choquent. N'hésitez pas à me reprendre, je pense que c'est mieux qu'on ait un moment de partage justement. Alors la question qui était sur le flyer, c'est soignant, un métier relationnel, point d'interrogation. Alors quand j'étais à votre place, j'étais étudiant, j'aurais dit poser la question, c'est y répondre. Évidemment, soignant, c'est un métier de relationnel. Et puis, vous savez, par exemple, à l'heure actuelle, la télémédecine est en plein boom. C'est intéressant, c'est indéniablement utile, et je pense que la télé-imagerie, la télé-radiologie, la télé-histologie, la télé-biologie, c'est sûrement intéressant, ça permettra d'apporter des soins là où on en manque. Maintenant, la télé-psychiatrie, je suis un peu dubitatif. La télé-obstétrique, j'ai des grands doutes. Et l'idée qu'on va mettre le patient devant un écran et qu'un algorithme ou au mieux un médecin situé à l'autre bout du monde va gérer le problème me laisse quand même un peu perplexe. Mais ne vous y trompez pas, on est en plein dedans actuellement. D'autre part, à l'heure actuelle, dans le monde courant et celui de nos patients, l'idée qu'on arrive sans problème à un auto-diagnostic en utilisant des algorithmes et des outils internet est très prégnant et de plus en plus, si nous ne nous y trompons pas, Google et d'autres ont beaucoup investi dans cette hypothèse que l'on puisse faire une médecine ou en tout cas un soin ou au moins un diagnostic et en grande partie une incitation thérapeutique sans avoir besoin de relations humaines autres qu'avec celui qui a pondu l'algorithme. Donc, soignant, un métier relationnel, oui, mais après tout. Deuxième question, soignant, est-ce un métier uniquement et essentiellement relationnel? Ben non, pour moi pas. La base du métier est, les fondements professionnels de tout soignant sont scientifiques. Vous savez qu'on travaille sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine à l'heure actuelle, qui sont toutes les décisions thérapeutiques lourdes sont prises en fonction de données scientifiques internationales. Dans les hôpitaux, c'est jamais un docteur, dès qu'on est quand même dans quelque chose d'un petit peu important, qui dit « moi je fais ça ». Derrière le rideau, il y a des gens qui se réunissent et il y a des réunions pluridisciplinaires et les choix sont décidés en fonction de données scientifiques et scientifiques dures. D'autre part, c'est évident qu'il y a eu des errements, des imperfections, des erreurs, ça va de soi, mais n'empêche. Sur une carrière, je commence à avoir un peu de bouteille, sur une carrière, les progrès diagnostiques et thérapeutiques sont absolument évidents, et leur base est quand même une base scientifique, et on ne peut pas l'oublier. Et enfin, les gourous, les charlatans, les thaumaturges de tout poil ont généralement un excellent relationnel, et donc dans ce monde qui ne croit plus en rien et qui est d'une crédulité stupéfiante. Le relationnel, c'est important, mais ça doit s'adosser à du solide, à du professionnel et à du scientifique. Cependant, classique de dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et la demande des patients que nous rencontrons, c'est aussi beaucoup le temps passé avec eux, l'empathie, les explications, la chaleur humaine, les réponses. Ces demandes sont plus que légitimes. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, de plus en plus difficile d'y répondre comme ça, parce que, on passe notre temps à courir, à faire de la paperasse, à aller de l'un à l'autre. Et je pense qu'on s'est sous-estimé la difficulté qu'il peut y avoir à trouver le temps donner à nos patients. Nos patients, c'est les gens avec qui on travaille, et c'est une banalité pour tous les soignants. Hein. Les plus grands maîtres qu'on a eu dans sa vie sont malades. Les plus grandes leçons de courage, de dignité au versus de nos malades, c'est toutes les gens qui sont soignants le savent. Alors, question suivante. Soignant chrétien, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on est meilleure infirmière, kiné, podologue, médecin, psychologue, etc. Si on est chrétien? Une question, et je pense que la question, c'est est-ce qu'on est meilleur boulanger, chauffeur routier, chef d'orchestre, ingénieur, si on est chrétien? Je laisse répondre à la question, mais il n'y a pas de raison que ce soit oui pour un groupe et non pour l'autre. Alors, néanmoins, on a, chrétien ou non, quel que soit le métier qu'on fait, et quand on est soignant, on a, chrétien ou non, un devoir de compétence, et la compétence inclut le relationnel. Point suivant, et ça c'est en tout cas dans mon expérience quelque chose qui a été assez important, le fait d'être chrétien change-t-il notre regard sur le rapport à l'autre et sur la démarche soignante? Alors, j'ai été, parce que je suis chrétien, très marqué, très inspiré par l'Évangile. C'est assez bête ce que je vous dis, mais c'est vraiment du concret au quotidien, ça. C'est pas, et c'est déconnecté de ma pratique d'église. C'est-à-dire que c'est en lisant l'Évangile que j'ai été marqué par des faits. Je vous le partage. Et j'étais notamment, et ça fait tout à fait écho à ce qui a été dit ce matin, au départ, c'est tout à fait ça, c'est la démarche thérapeutique de Jésus. Et quand on lit les miracles avec un regard de soignant, et je m'excuse de vous le donner comme ça, c'est évidemment un biais. On peut le lire autrement, hein, mais c'est une manière de le lire. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au fait que ce soit miraculeux, oui d'accord, il en a fait, Jésus est très fort, ok, un seul miracle aurait suffi. Je pense que ce n'est pas pour ça qu'on nous rapporte plein de miracles dans la Bible. Ce n'est pas uniquement parce qu'il a fait des miracles que c'est miraculeux. C'est parce qu'il y a aussi autre chose. Et ça, moi, en tout cas, ça me dit quelque chose, et ça m'a dit, et ça m'a influencé dans ma manière d'être. Alors, par exemple, dans Jean 9, chapitre 1, c'est l'histoire de l'aveugle de naissance. Qu'est-ce qui se passe? On amène à Jésus quelqu'un qui est aveugle, et là, ce que font les gens, c'est la première chose, à qui la faute? Il a péché, c'est lui, c'est ses parents, c'est qui? Et Jésus casse cette relation, péché, maladie, souffrance. Il dit non. Ce n'est pas parce que lui a péché, ni parce que ses parents, qu'il est aveugle. Ça paraît simple et évident. Ça ne l'est pas. La question « Pourquoi suis-je malade ?» est une question majeure. Que beaucoup de gens posent. Et j'ai vu dans ma pratique très souvent des gens dire ça. J'ai vu des chrétiens être torturés, parce que persuadés que la maladie qu'ils avaient, ou pire, qu'avait leur enfant, était liée à une faute qu'ils avaient commise. Et j'ai vu des athées absolus dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Cette notion de péché-maladie est ancrée dans le très profondément, pas forcément chez les chrétiens pratiquants. Or, Jésus va la casser dans ce texte. Et il y a une autre histoire, oui. C'est pas une maladie, mais c'est une histoire de catastrophe. Il y a la tour de Siloé qui s'effondre, il y a des morts, et puis aussi il y a une action de violence politique. Hein. C'est Hérode qui est un tyran sanguinaire qui assassine ses opposants et qui mélange le sang avec celui des sacrifices des animaux. Hein. Et on dit, mais alors c'est la faute de qui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ne sont pas plus pécheurs que les autres. Jésus n'entre pas dans cette idée péché, maladie, c'est ta faute. Et dans les choses importantes que l'on peut dire à un malade, c'est ce n'est pas ta faute. C'est très important dans la relation de dire tu as cette maladie, c'est comme ça, mais ce n'est pas ta faute. Et c'est une manière que m'a appris l'Évangile. Et Jésus va être tout à fait étonnant dans cette histoire. Parce que d'abord, c'est une des choses que nous ne savons pas dire souvent, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. L'explication pour tout. Alors quand on est croyant, quand on a une idée religieuse, ça peut être c'est la faute de moi, Dieu. Mais ça peut être aussi la société, ce que j'ai mangé, ce que je n'ai pas mangé, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, etc. Et cette incapacité, et notre période est très forte pour trouver des explications à tout, et cette incapacité à dire « je ne sais pas pourquoi » pose un vrai problème. Parfois, il faut que le médecin, le soignant, dise « je ne sais pas pourquoi ». Et la réponse de Jésus à l'aveugle né va être assez étonnante aussi. Il prescrit un bizarre protocole thérapeutique. Quand vous le regardez, il fait de la boue, il faut qu'il le mette sur les yeux, enfin bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, il prescrit un protocole thérapeutique et il faut que le malade le fasse. S'il ne le fait pas, c'est censé pas marcher. Il y a une participation active du patient, du malade, à sa guérison. Jésus ne fait pas, et c'est très intéressant dans beaucoup de miracles, on va y revenir, Jésus ne dit pas « t'es guéri ». Maintenant, tu vas appliquer ce protocole thérapeutique. C'est celui-là. Il te paraît bizarre. Ben ouais. Mais vas-y. Et donc, il intègre le patient à sa guérison. Ah, il y a plein d'autres comme ça. Il y a l'histoire du lépreux que vous trouvez dans Marc, chapitre 1, verset 35. C'est comme tout à l'heure, hein. Pareil, hein. Il avait autre chose à faire. Hein. C'est la même histoire. Hein. Et en plus, c'était bien ce qu'il avait à faire, il allait prêcher. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Et bien, alors qu'il il allait là, il y a ce type qui crie et qui dit « sauve-moi ». Et, bon, pas allongé, mais la réponse que va donner ce gars à Jésus, c'est « si tu veux, tu peux me rendre pur ». Et Jésus va faire un geste complètement étonnant, comme tout à l'heure aussi, hein, il va toucher le lépreux. Toucher le lépreux, c'est violer un interdit social grave. Bien sûr, vous savez que ça restait très longtemps vrai, on mettait à l'écart les lépreux pour protéger la société, et on ne savait pas faire tous les diagnostics entre la lèpre et d'autres maladies, et tous les gens qui étaient suspects d'être lépreux, on les mettait à l'extérieur, et c'était absolument interdit de les intégrer dans la société et de les toucher, parce qu'il y avait un risque de contamination. Donc Jésus va faire là un geste absolument scandaleux. Il va le toucher. Mais vu du lépreux, c'est un geste extraordinaire. Extraordinaire. Ce qui ne pouvait absolument pas lui arriver. Être touché. Jésus va le toucher. Non seulement c'est pas simplement. Et il ne le fait pas pour violer le bien-pensance du moment. Il le fait, je crois, pour que le lépreux ressente ce geste-là, celui-là. Il est capable de violer tous les interdits pour moi. Et il va faire là encore quelque chose de remarquable. Il va lui dire, maintenant tu vas aller chez le prêtre et faire les rites habituels de purification. Quel intérêt, il est déjà guéri. Je pense que l'intérêt, c'est qu'on le remet dans le système normal. On le remet dans la société. On le réintègre. Et donc, dans cette démarche, encore une fois, il y a une démarche thérapeutique, avec un protocole thérapeutique, mais une capacité à aller encore au-dessus. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas simplement tu es lépreux, tu n'es plus lépreux, dis-moi merci. C'est et je vais encore un petit peu plus loin, je t'aide à rentrer dans la société. C'est donc ça dépasse la thérapeutique immédiate. On va retrouver plein d'autres histoires. Si je vous les raconte, c'est parce que c'est des histoires qui m'ont touché. Encore une fois, c'est pas, je suis pas du tout. On peut lire, et je m'excuse auprès des théologiens qui sont bien meilleurs que moi et qui pourraient vous dire plein de trucs plus intéressants que ça. Mais moi, c'est ce qui m'a touché dedans. Hein. Et une autre histoire qui est assez étonnante, c'est dans Marc 4, 25. C'est une femme qui a des maîtres enragés. Bon. On est typiquement dans la maladie absolument honteuse à l'époque. Hein. C'est inenvisageable qu'une femme dise qu'elle a des pertes menstruelles. C'est pas possible. Elle a déjà vu de multiples médecins et plein de charlatans, et puis rien ne marche. Et elle touche Jésus. Elle attend le miracle magique. Je vais le toucher, je vais le guérir. C'est une espèce de vision thaumaturgique complète. Alors Jésus va faire une chose là encore étonnante. Il ne dit pas, ben voilà, elle guérit, c'est bien fait, tant mieux pour elle. Bien. On va parler. Et Jésus va, là encore, induire un rapport personnel, un rapport individuel, bonjour, avec cette femme, et il va lui dire une phrase là encore un petit peu étonnante, qu'il dit souvent, il lui dit « ta foi t'a sauvé ». C'est assez étonnant ça, c'est stricto sensu, c'est pas sa foi qui l'a sauvé, c'est Jésus. Mais, et de plus, il le dit en public. Mais qu'est-ce que ça peut encore signifier vu de la dame en question ? Ben, ça veut dire que Jésus valorise sa foi. Dis, tu es quelqu'un qui a de la foi. En plus, il le dit devant les autres. Non seulement, encore une fois, et en ayant plus dans cet arrière-plan très profond, peut-être que c'est un péché qui fait qu'elle est malade. Eh bien, Jésus non seulement lui dit, viens, c'est à toi que je m'intéresse dans cet élément thérapeutique, et ce n'est pas simplement la magie de vouloir toucher, mais en plus, je reconnais la personne qui est en toi et je pense que tu es quelqu'un d'intéressant, qui aime la foi. Je pense que cette capacité qu'a Jésus à aller à favoriser ce rapport individuel avec le souffrant est très forte, et qu'il a cette capacité à aller encore après, de rétablir le lépreux dans la société et de valoriser, là encore, remettre à la société cette femme. Et puis, la dernière phrase qu'il va dire là, c'est « Pars dans la paix et sois guéri ». Encore un cran de plus. Il va pas seulement au-delà sur la guérison immédiate et physique, il dit en plus « Va en paix ». Et puis, encore plein, il y a le dénommé Bartimée qui est aveugle, c'est encore un autre. Celui-là, il est aveugle, mendiant, passif, sur le bord du chemin, il mendie. Il crie, Jésus qui était en train de faire autre chose s'arrête, là encore il est capable de s'intéresser et de faire face à cette demande immédiate. Et puis les disciples efficaces arrivent, et ils disent, tais-toi, il y a du boulot, pas que ça à faire. Mais Jésus, encore une fois, dit non pas, oui, c'est vrai, j'ai à prêcher, plein de choses à faire, bon, allez, on le guérit celui-là. T'es content, c'est bien, dis merci. C'est pas du tout ça. Viens par ici. Et il va là encore établir un contact et dire une phrase complètement étonnante. Que veux-tu que je te fasse ? Ben quoi, c'est évident. Rends-moi la vue. Mais Jésus te demande, que veux-tu que je te fasse ? Là encore, c'est la participation du malade qui va verbaliser sa demande. Donc, analyser sa demande. Et aussi, éventuellement, à un moment donné, passif, mendiant, c'est pas terrible, mais c'est quelque chose. Guéri sans fonction dans la société, c'est pas forcément que veux-tu que je te fasse. Et dans le chemin de guérison, il y a cette acceptation aussi d'imaginer que le fait d'être guéri peut changer quelque chose dans sa vie. Il peut y avoir, c'est paradoxal, mais des sortes de bénéfices à être dans la position de malade. Parce qu'on est vécu comme malade par son entourage, parce que sa femme est plus gentille parce qu'il est malade, parce que les gens lui disent bah, le pauvre, etc. Et que si on n'est plus malade, on quitte cette position. Donc le « que veux-tu que je te fasse ?» est aussi important, et Jésus va dans cette démarche thérapeutique aller un peu plus loin que ça, il va poser la question, il faut qu'il réponde. Évidemment, il va répondre « guéris-moi », et là encore, la réponse « ta foi t'a sauvé ». Assez étonnant, mais cette réponse qui valorise la personne. Tu as participé, ta foi est pour quelque chose dans ta guérison. Hein, c'est pas « je t'ai sauvé, moi Jésus, parce que je sais faire », mais « ta foi t'a sauvé ». Ta foi fait partie de ta guérison. Autrement dit, tu es participant à ta guérison. Encore un autre, après j'en ai tellement que voilà, je vais arrêter ça, mais c'est ça expliquer ce que ça peut vouloir dire dans ce qui est notre démarche thérapeutique. Il y a le sourd-muet. Pareil, il est dans la foule, Jésus le sort de la foule, et puis il entame un dialogue avec lui. Et il fait un truc complètement bizarre. Il lui met les doigts dans les oreilles et il met de la salive sur sa langue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout simplement, il emploie un langage de sourd. Jésus lui parle. Si Jésus lui parle, puisqu'il est sourd, il ne va rien comprendre. Il lui dit, eh ben, il va lui parler ce qu'il comprend. Sourd, parler. Jésus parle à celui qui est en demande un langage qu'il comprend, et pas son langage à lui. Intéressant pour les soignants que nous sommes, hein? Parler le langage que comprend le malade. Et tu vas dire un mot, alors ma femme qui est orthophoniste m'a dit ça, il va dire un mot qui est « eftata ». Et « eftata », c'est un mot qu'on peut lire sur les lèvres. Ouvre-toi. « Eftata », ça se voit. En lecture labiale, ça se voit. Donc, parler le langage que comprend le patient. Et pas se réfugier dans son langage à soi, qui peut être le jargon médical. Bon, on peut en sortir, mais même quand on sort du jargon médical. Il y a d'abord la barrière de la langue, c'est une réalité. On soigne beaucoup de gens qui sont étrangers. Et puis on soigne des personnes âgées. Et puis on soigne des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre. Parce que nous, on est tous ici autant qu'on est. Il y a eu au bout. Hein. On est tous, il y a eu universitaire. Hein. On est tous ici des gens qui avons eu une éducation qui nous permet de comprendre un certain niveau de langage. Et bien, un malade, c'est un malade. C'est pas quelqu'un dont on exige qu'il ait un certain niveau de langage. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Donc il faut avoir la capacité de parler ce qui est compris. Bon, il y a encore dans Jean 5 le paralysé de la piscine de Bethesda. Lui, c'est un handicapé, pas un malade. Ça fait 38 ans, il est handicapé. Et puis, il y a un truc où il y a une curieuse balnéothérapie. C'est de l'angélo-balnéothérapie. Je ne sais pas ce que c'est, il y a un ange, ça y est, c'est la piscine. Drôle de truc, mais enfin, c'est comme ça. Et là encore, il pose une question. Veux-tu être guéri? Question invraisemblable. Bien sûr. Quand même, veux-tu être guéri? Et poser cette question au patient, c'est d'une part lui le faire participer, mais aussi lui faire prendre conscience que dans la démarche de guérison, il va être impliqué. C'est pas simplement si tu veux être guéri, bah, il va falloir que tu prennes les médicaments. C'est déjà ça. Si je veux être guéri, c'est très très classique, on voit ça sans arrêt maintenant. Hein. Bonjour docteur, voilà, c'est ça, bah, écoutez, voilà, le traitement c'est ça. Ouais, mais je ne veux pas prendre de médicaments. Ah, veux-tu être guéri? C'est pas simplement un rapport vertical du médecin qui dit fait. Le patient doit participer. Alors, c'est au médecin de faire passer ça au patient, mais aussi au patient de participer. Il y a un effet actif. Et puis, il va dire une phrase, donc, une phrase assez étonnante. Il répond à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour me descendre. Seigneur, je n'ai personne. Et cette réponse est une réponse très fréquente. Docteur, je n'ai personne. Alors voilà, je vois, il faut que vous fassiez une activité de thérapie, machin, tout ça. J'ai personne. J'ai personne pour m'emmener chez le kiné. J'ai personne pour m'aider à ça. J'ai personne. Et cette réponse de je n'ai personne pour m'aider est extrêmement fréquente dans les rapport qu'on peut avoir avec les gens, il faut savoir aussi l'écouter et voir par quels moyens on peut aider à ce qu'il y ait quelqu'un. Voilà, puis après, il y en a plein, hein. Vous trouverez tout ce que vous voulez, la psychothérapie de la Samaritaine, les parents d'enfants malades, les familles en deuil, qui disent cette phrase habituelle, « si tu étais venu plus tôt hein, », des phrases tellement fréquentes, « si on l'avait fait plus tôt hein, », c'est la phrase exactement que vont dire Marthe et Marie à Jésus, hein, « si tu étais venu plus tôt ». Voilà, tout ça, on le retrouve. Et donc moi, encore une fois, avec une lecture de soignant qui est très partielle, je suis frappé par cette capacité de ce que Jésus nous apprend du rapport soignant, où d'abord il instaure un rapport personnel, du un à un, et avec une horizontalité, une adaptation du langage, un questionnement vrai sur le rapport du patient à sa maladie, et un regard qui va plus loin que l'acte thérapeutique. Et qui va jusqu'au rétablissement au sens vrai. Alors voilà, c'était mon expérience. Et puis après, on peut ouvrir une des questions qui était sous-jacente, je crois, c'est et le partage de la foi dans tout ça. Soignant, partager sa foi. Comment elle fait? Comment est-ce qu'on fait? Ce que je vais dire là n'engage que moi et ma pratique et. On peut tout à fait voir les choses autrement et d'autres avoir d'autres expériences et je ne suis surtout pas un exemple. Voilà. Donc c'est un exemple qui est un exemple d'hospitalier, encore une fois. Je pense que ça peut être différent en libéral ou dans d'autres structures. Donc la première idée, c'est que bon, on est là pour soigner, c'est notre métier, on est payé pour ça, on se doit de le faire du mieux qu'on peut, c'est évident, il ne faut quand même pas s'en plaindre, c'est un métier merveilleux. Et même avec un certain âge, on continue à le dire. Il y a plein d'inconvénients, nous pouvons faire toute une liste, mais ça reste un métier magnifique et il ne faut pas se plaindre. On s'intègre dans, d'une part, une structure laïque, qui est l'hôpital, et dans une équipe que l'on souhaite respecter. On travaille avec des gens, pas tout seul. Pour parler religion, foi, dans l'institution, il y a des gens mieux placés et mieux formés que les soignants. Ce sont d'abord les aumôniers qui existent et à qui on peut faire appel. Encore faut-il que l'on n'oublie pas qu'ils existent et qu'on soit capable, nous les soignants, d'avoir établi un contact avec eux. C'est une première chose. Je pense qu'il y a, on peut en discuter, mais on en parlera cet après-midi. Je pense que les aumôniers ont un rôle majeur, sous-utilisé dans tous les lieux de soins. En pratique, chaque lieu de soins a le droit d'avoir un aumônier. Et je pense qu'on peut déjà savoir ça. C'est très important. Et puis les visiteurs. Je dois rendre un hommage particulier aux gens qui sont des visiteurs médicaux. C'est des gens qui sont eux pas payés pour le coup et qui viennent voir les malades. Ils font un travail formidable en apportant une chose majeure. C'est une parole non médicale, non soignante. Et c'est indispensable. Quand vous êtes hospitalisé, on va vous parler et que de la maladie. C'est normal, ça tourne autour. Et il y a quelqu'un qui vient et qui va vous parler football, littérature, voilà. C'est important. Et sachez, les visiteurs médicaux, c'est vraiment une activité essentielle dans les hôpitaux. Ne s'oppose à ce que notre foi, notre appartenance religieuse soit connue. Ça me paraît évident, au moins parmi les collègues et l'équipe. C'est pas faire du prosélytisme, c'est une banalité. Si quelqu'un est un marathonien passionné ou qu'il joue du trombone à coulisses, ou qu'il a comme hobby la culture du rhododendron, ben tout le monde le sait dans le service. Ça se sait, d'accord. Donc le fait que je suis protestant, au minimum, ça se sait. Après, il faut là encore employer un langage qui est compréhensible. Hein. Je suis un évangélique de Rambé de la sous-section 35, machin, les gens n'ont rien à foutre. Hein. Par contre, qu'on ait un positionnement en disant je suis croyant, je suis protestant, c'est une manière d'avoir quelque chose qui est compréhensible. Je suis catholique, je suis orthodoxe, c'est une manière d'avoir quelque chose qui est compréhensible. Ça se sait. C'est banal. Et souvent, les gens dans l'équipe, à un moment donné, ils viennent me voir et disent « Toi qui es croyant, qu'est-ce que tu penses d'eux ?» Et c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, parce que on vit habituellement. Donc il n'y a pas un effort spécifique à se positionner comme on est. C'est pas, ça n'a rien de ça pose aucun souci. Alors ensuite, ben, comme dans toute relation humaine, on peut être amené à partager sa foi avec un patient. Comme dans toute relation humaine. Mais ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on le fait. C'est parce qu'on est dans une relation humaine. Et ça, ben, ça arrive, fort heureusement, qu'on ait des relations avec les gens. Et on parle. Quand on voit quelqu'un, quand on a un peu le temps, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein ? Bien sûr. Et c'est pas uniquement pour savoir si ça a un lien avec sa maladie, c'est pour connaître les gens. Et donc, bah, c'est arrivé qu'on dise. Et puis après, bon, on peut se avoir des relations et puis parler, et puis à ce moment-là, bah, le partage est possible, comme avec son voisin du palier, avec son patient, il n'y a pas de souci avec ça. C'est une relation humaine. Mais là, on n'est plus dans la position de la blouse. Hein. C'est pas une position verticale. Comme je suis médecin, je te partage ma foi. Hein. C'est parce que tu es mon frère humain, on partage. C'est complètement différent. Bon, je veux dire que ça m'est arrivé, hein, et ça m'est arrivé de manière souvent complètement inattendue avec des gens qui m'ont parlé eux-mêmes alors que j'avais pas moi-même fait un témoignage spécifique. Hein. Par contre, on ne veut pas mélanger les gens, je crois que c'est clair. Hein. Le prosélytisme, c'est illégal, en plus c'est immoral. C'est-à-dire arriver parce qu'on est en position de surplomb, parce que quand on est debout et que quelqu'un est dans un lit, on est forcément en position de surplomb, quoi qu'on en dise, et quelle que soit notre bonne volonté, si on est en position, si on profite de ça pour imposer quoi que ce soit à quelqu'un, c'est moche. Voilà. C'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que c'est moche. Et puis c'est pas conforme à l'évangile. Jésus, justement, il avait toutes les raisons d'être en surplomb absolu. Il fait se lever les gens et les approche de lui pour parler. Et puis accessoirement, il leur parle aussi. Il ne se gêne pas pour leur parler de foi, mais dans une position de relation d'égal à égal. C'est autre chose. Bon. Bon, ce qui n'empêche pas que dans un rapport entre deux personnes, on peut être amené évidemment à discuter. Et puis enfin, pour en terminer, je crois vraiment que le métier de soignant, qui encore une fois, je le défends parce que c'est un métier intéressant et passionnant. C'est un métier de service, bien sûr. C'est un métier de service. Et là encore, ça fait référence à Jésus qui s'est lui-même défini comme serviteur. C'est un métier de service et on a la chance de pouvoir être dans cette position de service. Alors, servir, ça peut être une position d'autorité, hein, ça n'empêche pas. Être en position de service tout en disant c'est ça que vous devez faire et si vous ne le faites pas, ça, vous allez souffrir et il faut. Hein, c'est pas servir, c'est pas toujours être comme vous avez raison, vous avez vos insulines, vous n'en voulez pas, vous avez vraiment raison, ben, je vous laisse mourir parce que. Non, hein, c'est, il y a des positions où parfois on a le service, c'est être. Voilà. Voilà donc un petit peu les quelques partages que j'avais à vous faire de la position d'un soignant hospitalier. Un petit peu chevronné, pour ne pas dire vieux, mais voilà, c'est un petit peu ce que l'on peut vivre. Et pour ceux qui sont dans les hôpitaux, je pense qu'il y a ici peut-être des infirmiers, des étudiants en médecine, voilà, je pense que c'est un petit peu ce qu'on vit, et je suis à votre disposition pour qu'on en cause.